Voilà, je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte, la bonne parole de notre Dieu, dans l'Épître de Paul aux Galates, au chapitre 6 et au verset 2. Et là, il est écrit, Galates chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Vous avez là une expression qui peut être frappante pour certains. La loi de Christ. Comment ça, la loi de Christ? Pourtant, on a été affranchi de la loi. On a été libéré de la loi. C'est vrai qu'on a été libéré de la loi de Moïse qui pesait sur nous. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes sans loi. Hein. Lorsque nous venons à Jésus, eh bien, nous passons sous la loi de Christ. Et cette loi est nécessaire. Pourquoi est-elle nécessaire? Eh bien, parce que lorsque nous venons de tout notre cœur au Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans un royaume, nous entrons dans le royaume des cieux. Hein? L'Écriture nous dit clairement, si vous lisez les évangiles, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à ceci, est semblable à cela, Matthieu 7, hein, la parabole du royaume. Ou bien, il vous dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Hein, donc on est dans un royaume. Et un royaume ne peut pas subsister s'il n'y a pas des lois. Hein. Il n'y a pas une loi dans ce royaume. Dans n'importe quel royaume, dans n'importe quel état, il y a des rois, des lois. Pas des rois toujours, mais en tout cas, pour nous, on a un roi. Donc alors, cet état, ce royaume, où est-il? Il est au milieu de ceux qui sont rassemblés au nom du Seigneur, mais il est aussi dans les cieux. Hein. En fait, je dirais que nous sommes en quelque sorte une ambassade du royaume. Mais le royaume lui-même, dans sa plénitude, il est dans les cieux. C'est pour ça que, par exemple, Philippiens 3, verset 20, nous dit « Mais nous sommes concitoyens des cieux. » C'est marqué. Hein, donc, et de qui sommes-nous encore concitoyens? Eh bien, Éphésiens 2, 19 nous dit « Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Et les rachetés sont un peuple. Nous qui sommes rachetés par le Seigneur, nous sommes un peuple qui appartenons au Seigneur. Et ainsi, voyons-nous, dans Actes 15, au verset 4, il est écrit « Dieu a d'abord jeté son regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Hein, » donc, c'est encore, il y a d'autres références encore ce qu'on pourrait donner à ce sujet. Mais en tout cas, ces rachetés sont un peuple. Dieu s'est choisi un peuple qui porte son nom. Et ces rachetés sont aussi un royaume, mais c'est pour ça que, par exemple, dans Apocalypse 1, verset 6, on a ce qu'on appelle une doxologie qui est là, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà. Donc, il a fait de nous un royaume, c'est bien indiqué. Et celui qui est à la tête de ce royaume, évidemment, c'est Christ. Christ est à sa tête, par rapport à Christ, que sommes-nous? Qu'est-il pour nous? Christ, c'est le maître, et nous sommes ses serviteurs, déjà. Hein, c'est clairement indiqué, par exemple, dans 1 Corinthiens 4, verset 1, il est écrit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. » 1 Corinthiens 4, verset 1. Christ est le Seigneur, et nous sommes ses sujets. Et c'est pour cela que dans Jude, par exemple, au verset 4, nous lisons, il est question de notre seul maître et Seigneur, Jésus-Christ. Voilà. Et puis, Christ aussi, c'est le commandant en chef, et nous sommes ses soldats. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut trouver, par exemple, dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 3, lorsque l'apôtre s'adresse à Timothée, qui lui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et donc dans cet état, dont Christ est le maître, le Seigneur, le commandant en chef, et nous sommes les serviteurs, les sujets, les soldats, il y a une loi. Il y a une loi, c'est la loi de Christ, dont nous avons parlé tout à l'heure, que je vous rappelle, portez les fardeaux les uns des autres, car c'est ainsi que vous accomplirez la loi de Christ, Galates 6, verset 2. Alors, cette loi du royaume de Christ, eh bien, c'est une chose absolument nécessaire. Hein. Donc, vous avez pas mal de chrétiens, ils n'aiment pas trop le mot loi. Hein. Dès qu'ils vous entendent le mot loi, tout de suite, ils pensent légalisme. Hein. Légalisme, c'est tomber dans des excès de ce côté-là. Mais malheureusement, je pense qu'à l'heure actuelle, dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, ça part plutôt dans l'autre sens, voyez-vous. Ça part plutôt dans le libertinisme. Hein. Parce que la loi, c'est bon, la liberté, c'est bon. Le légalisme, c'est mauvais, le libertinisme, c'est mauvais aussi dans l'autre sens. Alors voilà, donc il faut que nous puissions quand même nous souvenir que, par exemple pour l'apôtre Paul, croire, ça signifie automatiquement obéir. C'est automatique, hein, c'est une évidence. Hein. C'est Paul, l'apôtre de la liberté, hein, qui parle des commandements. Et dans 1 Corinthiens 7, verset 19, il nous dit par exemple, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Voilà ce qu'il nous dit. Et lui-même, il commandait. Hein, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 6, par exemple, il dit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Et le sens du mot « recommander » là est extrêmement fort. Hein, dans ce contexte-là, vous avez le « re » devant, mais c'est, vous avez quand même le mot « commander » qui est le plus insistant. Donc, pour lui, donc, pour l'apôtre, la conversion, c'est un acte d'obéissance et de soumission. Et lorsqu'il donne son témoignage devant le roi Agrippa, dans acte 26, verset 19, il dit, en conséquence, « Roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Il n'a pas voulu résister à l'appel de Dieu. Et celui qui est converti, c'est celui qui ne veut pas résister à ce que Dieu lui demande. Hein ? Et il veut au contraire le mettre en œuvre, le mettre en action. Alors c'est vrai que, Dieu merci, nous avons été libérés de la loi du péché et de la mort. C'est pour ça que dans Romains 8, versets 1 et 2, par exemple, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ainsi avons-nous été affranchis de l'obéissance servile à la loi de Moïse, mais nous avons été dégagés de cette loi, étant morts à cette loi, c'est Romains 7, verset 6 qui nous dit cela, morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Hein, donc, et Romains 10, verset 14 précise, conclut bien sur ce point, car Christ est la fin de la loi pour que soient rendus justes tous ceux qui croient. Mais, rappelons-le, la fin donc de cette loi telle qu'elle s'imposait dans nos vies ou dans nos consciences. Mais le croyant n'est absolument pas sans loi. C'est une évidence. Quand on vient du Seigneur, ben vous savez, certains ils peuvent s'imaginer, ah ben là, c'est vraiment formidable, là, on a eu de la part du Seigneur le pardon des péchés, et puis on a eu des guérisons, et puis on a eu des délivrances, et des exaucements, et l'assurance de la vie éternelle. On est libéré et maintenant on va continuer à être béni en faisant un petit peu ce qu'on veut, pourvu que les choses mauvaises disparaissent. Alors ça, c'est quand même pas juste. Hein. C'est quand même pas ça la réalité. Quand on vient à Christ, ce n'est plus pour faire ce qu'on veut, hein, pas pour faire ce qu'on veut, mais pour faire ce que Dieu veut. Hein. On n'est pas là pour chacun chercher ses aises, mais on est là pour chercher la volonté de Christ. Le croyant n'est absolument pas sans loi. J'ai dit l'autre jour quelque chose à propos de Georges Müller. Georges Müller, c'était cet homme de Dieu qui avait eu des exaucements extraordinaires de la part du Seigneur et qui était à la tête d'un orphelinat qui accueillait, donc c'était au XIXe siècle, plus de 2000 enfants à la fois. Et le tout était une œuvre de foi qui s'appuyait exclusivement sur la prière et sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Il ne faisait jamais aucune demande d'argent, aucune subvention. Il n'y avait pas de subvention d'État à l'époque, d'ailleurs, en Grande-Bretagne. Enfin, voilà. Et donc, uniquement par la prière et la mise en pratique de la parole de Dieu pour qu'ils soient pourvus à leurs besoins et à tous leurs besoins. Et puis un jour, quelqu'un lui a demandé quel était le secret d'un service, d'un ministère si béni, puisqu'il a eu dans sa vie, à peu près, il a calculé à peu près 50 000 exaucements à sa prière. Hein. Donc, c'était vraiment quelque chose. Hein. Il a posé la question du secret. Et voilà ce que Georges Müller a répondu. Il a dit, il y a eu un jour où je suis mort complètement. Et en parlant, il s'est abaissé de plus en plus jusqu'à presque toucher le plancher. Il a dit « Je suis mort à Georges Müller, à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts, à sa volonté. Je suis mort au monde, à ses félicitations comme à ses critiques. Je suis mort à l'approbation ou au reproche, même de mes frères ou de mes amis. Et depuis, je n'ai cherché qu'à être approuvé de Dieu en cherchant et en faisant uniquement sa volonté. » Voilà. Voilà le grand point. Donc, vous voyez, et l'apôtre Paul, alors évidemment, avant lui, dans ce sens-là, nous dit clairement, dans 1 Corinthiens 9, verset 21, « Je ne suis point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » Et Galates 5, verset 13 ajoute, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Voilà. Et donc, le croyant doit accomplir la loi de Christ, on l'a lu, donc il doit marcher dans l'obéissance de la foi. Hein, donc c'est là encore, et je peux citer plusieurs passages, je vais en citer juste trois, Romains 1, verset 5, « Par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » L'obéissance de la foi. Hein. Romains 15, 18, « Je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. » Il parle des miracles que Dieu a fait pour amener les païens à l'obéissance. Romains 16, 26, il parle du mystère caché pendant des siècles et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Voilà. Donc voilà, vous voyez, cette notion d'obéissance avec la loi qui la sous-tend est bel et bien présente. Alors ça nous amène à notre dernier point. Qu'est-ce exactement que cette loi ? Là, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Déjà, cette loi, par son origine, nous l'avons vu, c'est la loi de Christ. C'est Christ qui est à la fois l'inventeur, l'auteur, et j'irais quelque part l'impulseur de cette loi. Donc c'est bel et bien attaché directement à sa personne et découlant directement de sa personne, de son œuvre et de son enseignement. Ensuite, par sa nature, c'est une loi de liberté. Et c'est ça qu'il faut, sur quoi il faut insister. Hein, donc, et l'épître de Jacques, de ce point de vue-là, est extrêmement précise, puisqu'elle nous dit au chapitre 1, verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et là, on s'aperçoit de quelque chose qui peut paraître paradoxal et qui est pourtant bien réel. C'est ceux qui mettent en œuvre cette parole pour y obéir, donc pour s'y soumettre, ce qui pourrait paraître une contrainte au départ, eh bien ce sont ceux-là qui vont être libérés par le Seigneur de toute la puissance du péché, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans leur vie et de toutes les choses que le monde veut leur imposer. Et la liberté qu'ils vont avoir, c'est une liberté qui va être entière et totale. Amen. Cette loi aussi, par sa valeur, c'est aussi une loi parfaite. Je reviens au passage que j'ai lu juste avant. Donc, la loi parfaite, la loi de la liberté. Ce qu'on voit dans tout ce passage, il n'y a rien à y retrancher, il n'y a rien à y reprocher. Vous savez, j'ai lu en passant l'autre jour un article dans lequel ils expliquaient que dans notre pauvre Parlement français, eh bien, avec le Sénat, ils font des lois. Ils font beaucoup de lois. Et puis de ces lois, je ne sais plus quelle est la proportion qui est réellement appliquée, mais c'est impressionnant qu'il y a le nombre de lois qui ne sont pas appliquées. Déjà, qui n'arrivent même pas au décret d'application, vous voyez, hein. Et puis après, quand le décret d'application est là, encore, il y a encore de la perte. Hein. Mais vous avez, voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que soit les lois ne sont pas comme elles doivent être, soit voilà, il n'y a pas la puissance pour donner l'application, mais en tout cas, on s'aperçoit que malgré toutes les bonnes intentions qu'il peut y avoir, ces lois ne sont pas parfaites. Tandis que la loi de Christ, c'est une loi qui est parfaite. Donc, et c'est une loi, les choses qui peuvent même paraître les plus petites qui y sont contenues, elles sont importantes, elles ont leur place, elles sont précieuses. Et Alors vous avez parfois, ben, vous avez parfois aujourd'hui, ben, il peut y avoir même entre chrétiens des discussions sur certains passages de l'Écriture, dont certains vont les appeler petits, voilà, c'est pas important, je sais pas moi, c'est plus pour notre époque, c'est plus le contexte culturel, et puis je ne sais pas, et puis toute cette affaire de conviction personnelle, vous savez, il faut faire très attention à ça. Faut faire très attention parce que ce qui est marqué noir sur blanc dans l'Écriture, c'est quand même bel et bien marqué comme ça. Hein. Et vous vous apercevez qu'il y a des choses que Dieu met dans la parole de Dieu, que Dieu a permises, qui soient là, et qui sont, dirais-je, un peu comme des moyens de nous tester, pour voir, voyez, pour voir ce qu'on va faire. Parce que vous avez des gens qui disent, moi ce que je ne comprends pas, ben, je n'y obéis pas. Mais l'important, ce n'est pas ce qu'on comprend, l'important, c'est ce qu'on croit. Hein. Et on s'aperçoit que bien souvent, quand on croit, quand on obéit, quand on met en pratique, même peut-être sans comprendre certaines choses, on s'aperçoit que Dieu, d'une part, nous bénit, et d'autre part, Dieu va nous faire comprendre les choses aussi par la suite. Parce que nous ne marchons pas par la compréhension en priorité, nous marchons par la foi en priorité. Il faut toujours se souvenir de cela. Et combien la grâce du Seigneur est grande. Je dirais, elle est grande pour tous ceux qui tombent, même dans le péché, mais qui ont à cœur, malgré tout, d'obéir à Dieu. Vous savez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il veut les renouveler, il veut les rappeler, il veut les relever, les recueillir, les bénir à nouveau. Mais prenons garde, frères et sœurs, d'être de ceux qui auraient tendance peut-être à enlever l'un de ces plus petits commandements et qui enseigneraient aux autres à faire de même, parce que la loi qui nous a été donnée par Christ est une loi qui en fait est parfaite. Et c'est de cette manière-là qu'il pourra faire pour nous cette œuvre de bénédiction et de libération. Amen. Et quand je considère encore, que je me pose la question, qu'est-ce exactement que cette loi par son contenu? Eh bien, par son contenu, c'est une loi d'amour. C'est une loi d'amour. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains 13, au verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Vous voyez, c'est très clair aussi. Jacques 2, verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Voilà. Et puis là, Timothée aussi, à Timothée, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est une loi d'amour. Une loi d'amour déjà de la part de Dieu qui nous l'a donnée comme manifestation extraordinaire de son amour. Et puis, je dirais dans l'autre sens, c'est une loi qui nous permet aussi de manifester notre amour pour Dieu et notre amour aussi pour notre prochain. Notre amour pour nos frères et sœurs, notre amour les uns pour les autres. La loi de Christ, eh bien, si elle est uniquement une loi d'obligation, ben, en fait, ce n'est pas la loi de Christ. Je veux dire, voilà, si les choses doivent être faites uniquement par obligation, alors, ben, ma foi, on retombe dans l'ornière de la religion, hein, de la tradition, va retomber de, je ne sais pas, moi, ou d'un mouvement, d'une dénomination quelconque. Hein, mais il faut toujours que la réalité de cet amour soit derrière notre observance de la loi de Christ. Et que ce soit de cette manière-là, par amour, lorsque nous agissons, que nous vivons et que nous luttons par amour, c'est à ce moment-là que le Seigneur peut faire son œuvre et que le Seigneur peut être vraiment glorifié et manifester sa pleine bénédiction. Amen. Et si j'avance encore un peu et que je suis toujours en train d'examiner ce sujet donc de ce qu'est exactement cette loi, eh bien, par sa force, c'est la loi de l'Esprit. Et il est marqué en effet dans Romains 8, verset 2, « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il y a une puissance, il y a une force qui est contenu dans cette loi de Christ qui nous permet de l'accomplir. Auparavant, quand nous ne connaissions pas Christ, nous ne pouvions même pas accomplir la loi de Moïse. Hein, nous étions pécheurs sur toute la ligne. Hein, et même si en imaginant même qu'il y avait parmi nous une seule personne qui obéit à 9 commandements et pas au 10e, eh bien, l'Écriture nous dit clairement que celui qui désobéit un seul commandement devient coupable de tous. Donc ça, c'était notre état, notre réalité. Mais, et comme la loi de Christ est encore plus difficile à accomplir, que la loi de Moïse, eh bien, c'était perdu d'avance. Il était absolument impossible d'y arriver par nos propres forces. Mais lorsque nous sommes venus à Christ, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, il nous a fait naître de nouveau, et ensuite, il a mis en nous son esprit. Alléluia, hein ! Enfin, il a fait les choses ensemble, hein ? Et alors, le résultat, c'est quoi ? C'est que ce que nous étions incapables de faire aujourd'hui, eh bien, par son soutien, par sa force, il nous donne la capacité de l'accomplir. Il donne la capacité de prendre des victoires dans tous ces domaines où nous n'arrivions pas à le faire auparavant. Alléluia ! Et tout spécialement lorsque l'œuvre du baptême du Saint-Esprit se fait, eh bien nous avons encore une puissance, je dirais une mesure de puissance supplémentaire pour que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, nous ne pouvions pas avoir la victoire, ni sur nos passions, ni sur notre caractère, sur toutes sortes de choses, mais c'est lui qui nous a donné son esprit pour y arriver, et c'est lui qui nous le donne jour après jour. Amen. Hein. Pourquoi on a ce passage qui dit « Combien plus le Seigneur donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Amen. Et puis aussi, je dirais, voilà, toujours en ce qui concerne ce qu'est exactement cette loi, par ses résultats, c'est la loi de l'esprit de vie. Hein, ce même passage que j'ai lu juste avant, Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Hein, donc, là encore, c'est le fait de se soumettre à Dieu, le fait d'obéir clairement au Seigneur, de s'abandonner donc entre ses mains pour que ce soit lui qui dirige toute chose, c'est ça qui va produire la vie. C'est ça qui va faire se développer la vie en nous. Alors ça paraît une mort, hein, parce que voilà, c'est vrai, lorsqu'on se dit il faut être soumis complètement, il faut obéir complètement, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on perd tout, on perd sa liberté, on perd toute autonomie, et puis où est-ce qu'on va, hein. Et pourtant le Seigneur nous dit clairement que c'est lorsque le grain de blé meurt, voilà, c'est là qu'il se multiplie et qu'il va pouvoir porter beaucoup de fruits. Et c'est lorsque nous acceptons de faire mourir notre ancienne vie et que nous soumettons notre vie à Christ de manière complète, c'est à ce moment-là que la vie véritable peut se développer en nous. Et c'est de cette manière que cette œuvre se fera. Et ça, c'est par la foi. Hein. Il y a des gens qui voudraient avoir la vie d'abord et croire après. Ben non, le Seigneur a dit, il faut croire d'abord et la vie vient après. C'est par la foi que cela s'opère. Et c'est la volonté de Dieu, c'est qu'il puisse en être ainsi pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a une place, le Seigneur a véritablement, je dirais, un ministère, il a véritablement un service pour chacune et chacun d'entre nous, dans son œuvre, dans son Église. Je trouve encore ce petit témoignage, il n'y a pas longtemps, qui m'a aussi touché le cœur. Jia Haixia a perdu la vue en l'an 2000. Son ami Jia Wenki a perdu les bras durant l'enfance. Ils ont toutefois trouvé le moyen de contourner leur handicap. « Je suis ses mains et il est mes yeux », a dit Haixia. Ensemble, ils transforment leur village en Chine. Depuis 2002, ses amis sont en mission pour revitaliser un terrain vague près de leur maison. Chaque jour, Haixia monte sur le dos de Wenki pour traverser une rivière jusqu'au site. Wenki donne alors une pelle à Haixia avec le pied, avant que Haixia place un seau au bout d'une perche entre la joue et l'épaule de Wenki. Et tandis que l'un creuse et que l'autre arrose, les deux plantent des arbres, plus de 10 000 jusqu'ici. Voici ce que Haixia a dit. « À travailler ensemble, nous ne nous sentons pas du tout infirmes, nous formons une équipe. » Voilà. Et vous savez, l'apôtre Paul compare l'Église à un corps dont les membres ont besoin les uns des autres pour fonctionner. Hein. C'est ce que nous sommes. Il explique bien clairement dans 1 Corinthiens 12, c'est qu'on a tous besoin des autres. Il n'y a aucun d'entre nous qui a un homme orchestre, comme on disait, qui serait capable de faire tout à lui tout seul. Ce n'est pas possible. Si l'Église n'avait que des yeux, elle n'aurait pas d'ouïe. C'est marqué aussi. Si elle n'avait que des oreilles, elle n'aurait pas d'odorat. 1 Corinthiens 12, versets 14 à 17. Et Paul de dire donc, l'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », verset 21. « Chacun de nous joue un rôle dans l'Église en fonction des dons que le Seigneur lui a accordés. » En tout cas, c'est la volonté, c'est le désir de Dieu. Et c'est vrai que Si deux hommes ont pu se jumeler pour revitaliser un terrain vague, eh bien, quelle image de l'œuvre de Dieu, quelle image de l'Église qui est en action? Et la question, c'est ça. Quelle est notre place dans le corps de Christ? Quels sont, selon vos dons spirituels, nos dons spirituels à chacun, eh bien, quel rôle est-ce qu'on joue? Comment est-ce qu'on se joint aux autres pour accomplir cette mission, pour accomplir cette œuvre? Amen, amen. Donc en conclusion, eh bien, rappelons-nous, cette loi, c'est la loi de Christ. C'est une loi parfaite, c'est une loi de liberté, c'est une loi d'amour, c'est la loi de l'esprit de vie. Et combien il est précieux de pouvoir y soumettre tout notre cœur ce soir, parce qu'il désire ainsi aussi nous bénir. Et nous pouvons conclure avec ce beau passage d'Exode, chapitre 32, verset 29. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, afin d'hériter aujourd'hui une bénédiction. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, et te bénissons en effet pour cette grâce et ce secours que tu nous accordes. Te remercions de nous avoir donné cette loi bénie, cette loi vivifiante, cette loi structurante que nous avons en Christ, cette loi véritablement qui est pour nous aussi comme un garde-fou bien souvent nécessaire, cette loi qui nous permet véritablement aussi de trouver notre place dans ton œuvre et de pouvoir participer avec nos frères et sœurs à l'édification de cette œuvre pour la gloire de ton nom, avec ton puissant soutien. Et nous te remercions, Seigneur, tout spécialement aussi parce que ce soir, eh bien, nous pouvons encore prier les uns avec les autres et les uns pour les autres, et ces divers sujets aussi que nous avons à cœur. Et c'est parce que nous sommes rassemblés aussi pour prier qu'il y a véritablement de grandes et belles choses qui se réalisent encore. Sois glorifié notre Dieu. Amen, Jésus. Alléluia. Bien que plusieurs encore puissent prier, je vous dis encore une fois, peut-être pas des prières trop longues,